Et bonjour à tous. Quand la grande table se dédouble, après deux bouts payés il y a 3 ans, autour de la figure du vigile, imposant et invisible, il revient avec un deuxième roman, Camarade Papa, aux nouvelles Attila. Et avec le même souci de la langue et cette fois du passé, l'écrivain ivoirien, Gauze, est notre première invitée. Auteur prolifique, roman, poésie, essai, prix Renaudot pour Mémoire de Porc-Épic, né en Pointe-Noire, en République du Congo, installé aujourd'hui en Californie, Alain Mabankou est notre second invité à l'occasion de la parution de « Les cigognes sont immortelles au seuil ». Deux romanciers qui racontent l'histoire en inventant des histoires. Jusqu'à 12h30, nous parlerons donc imaginaire, littéraire, avant de s'attabler autour des sujets qui fâchent. Appropriation culturelle, francophonie, crise des migrants, Gauze et Mabankou seront rejoints à partir de 12h55 par l'anthropologue Jean-Loup Amsel, auteur de « Enquête d'Afrique » chez Albin Michel. Le mariage de la culture et des idées, un nouveau format à retrouver à intervalles réguliers sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Gauze, bonjour.
Bonjour.
Et Alain Mabankou, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ben, ça tient.
Bon, mais nous, on va vous découvrir ensemble, ou vous redécouvrir dans ce dialogue que vous avez accepté l'un et l'autre, deux romans qui se lisent à hauteur d'enfant. Pourquoi ? C'est un parti pris littéraire ou aussi nostalgique, mélancolique pour vous, Gauze ?
Pour moi, c'est un parti pris littéraire stylistique. Ça me permettait d'inventer une langue idéale pour parler d'idéaux, en fait. C'est pour ça que j'ai pris la peau de l'enfant. Comme ça, on peut pas me taxer de vouloir tordre un peu les choses alors que je pense vraiment ce que l'enfant dit. Et voilà, qu'il sorte de la bouche comme ça d'un enfant me donne un petit air innocent.
Et pour vous, Alain Mabankou ?
Ben, pour moi aussi, c'est pour le même plan littéraire. Ajouté à cela, c'est que à l'époque où se passent les faits qui sont relatés dans Les Cigognes sont immortelles, j'avais 11 ans, donc je ne voulais pas créer d'anachronie en cherchant à emprunter une voix qui ne serait pas en adéquation avec celle que j'avais à cette époque-là. Et puis j'aime bien le côté innocent de la voix de l'enfant. Ce n'est pas toujours évident de tenir la distance, mais je pense que lorsqu'on a atteint la croisière, on finit par arriver jusqu'au port.
Cette innocence, elle permet quoi, Gauze ?
Mais heureusement que nos livres sortent ensemble. vous imaginez si le mien était sorti un an plus tard, il avait dit « Putain, il veut nous faire du Mabankou ». Ou bien si, c'était le contraire. Ah, Mabankou qui se met à faire du Gauze.
Voilà.
Heureusement qu'ils sont sortis ensemble.
Voilà. Sortent ensemble, et c'est le mariage de deux grands écrivains aujourd'hui aussi autour de cette grande table. Donc sur cette innocence que le regard d'enfant comme écrivain vous permet d'adopter, ce parti pris qui permet une certaine naïveté, une fraîcheur.
Ouais, ils sont forcément beaucoup plus clairvoyants. D'ailleurs, il y a un rite chez nous dans lequel en devenant adulte, on lave la figure de l'enfant pour qu'il cesse de voir le monde aussi innocemment, aussi purement, pour qu'il cesse de voir les esprits en fait. C'est même pas une relecture, c'est une lecture nouvelle en fait, juste une lecture qui n'a pas encore été faite du monde alentour quoi.
Alain Mabankou, vous avez été imprégné de marxisme dès l'enfance. Est-ce que vous laissez parfois des idéologies, quelles qu'elles soient, imprégnées, mettre leur marque sur votre langue ?
Ah oui, je pense que je suis un produit fini du marxiste-léninisme. J'ai lu des passages du Capital avant même d'avoir lu les Marcel Proust et les autres écrivains de la littérature française qui font l'unité de mesure de la culture. Nous, on avait des formules déjà toutes faites qui arrivaient. Les ennemis de la Révolution, il fallait les attaquer. Et la phrase, et peut-être la citation qui était la plus judicieuse pour moi à cette époque, c'était celle qui était tirée dans un livre d'Engels et Marx qui s'appelait Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. À l'intérieur, effectivement, il disait que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit désormais de le transformer. Et on nous demandait d'analyser le verbe interpréter et le verbe transformer. J'ai toujours été comme ça aussi en littérature. On écrit pour interpréter le monde, mais on écrit aussi pour le transformer. Et c'est ce qu'on est en train de faire, je pense.
Mais alors, est-ce que ce sont les mots qui sont idéalistes ou est-ce que ce sont les idéaux qui sont littéraires pour vous deux ?
Déjà, moi, ça, c'est une question à gauze.
Non. Moi, j'aime bien le fait qu'ils disent, moi, je suis un marxiste fini. Donc, il y a une fin.
Oui.
Alors que moi, je suis un marxiste toujours.
Mais éternel.
Je suis toujours un marxiste. Et j'ai pas grandi dans l'ambiance populaire générale autour de la langue, enfin, du marxisme, léninisme des Congolais. Oui. Mais par contre, j'ai grandi, moi, mes idéaux dans des livres qui parlaient comme lui l'entendait. Mmh. Ce qui m'a le plus inspiré pour utiliser cette langue-là, c'est un livre qui est la biographie de Kim Il-sung. Écrit dans un français incroyable. Cette langue où, évidemment, Kim Il-sung, c'est super Superman. Il a changé le monde, il a changé sa vision du monde et tout ça. Et dans une langue vraiment inimaginable. Le grand capital aveugle et apatride, venu courber les chines des masses laborieuses. Ce sont de belles phrases. Et c'est un style qui marque une pensée. Après, comment porter les idées, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà.
Mais disons qu'on avait des idées comme si c'était déjà dans une mallette. Nous, on était appelés, à cet âge des gamins, on était appelés les pionniers de la révolution socialiste congolaise. Et ce qui fondait notre action, c'était un article qui s'appelait l'article 1 du mouvement national des pionniers. Et ça se disait, le pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse. Dans tous ses actes, il obéit aux ordres du parti. Donc, on était déjà dans une attitude moutonnière. Nous étions des moutons de panurge avec le président de la République de l'époque était censé vraiment nous emmener vers la révolution.
Et qui parlait dans le poste.
Qui parlait dans le poste, c'est pour ça qu'il y a une présence de la radio.
Omniprésente, déjà. Mmh. Un jeu et un travail sur le langage. Chez vous, Gauze, on l'évoquait comme si votre dictionnaire avait été infiltré par le petit livre rouge. Vous pouvez nous en lire un extrait ? Camarade Papa, c'est un double regard, le vôtre, Gauze, sur la colonisation et l'immigration, avec une structure de roman particulière, une sorte de chassé-croisé littéraire entre Dabilly, de plus d'un siècle, notre ancêtre, qui part explorer les colonies, et celui d'un enfant né et grandi à Amsterdam dans une famille communiste, d'où le titre Camarade Papa, et qui va faire le chemin inverse, retourner, lui, en Côte d'Ivoire. Extrait.
Dans la grande cour sous le ciel entier, en face de l'EPP à Sikasso 2, il y a l'EPP à Sikasso 1, un bâtiment de 6 classes aussi. Le drapeau national qui pousse sur le mât trace une frontière invisible entre les deux. À la récréation, pour une raison que je ne connais pas encore, traverser la frontière provoque la colère des têtes élevées d'en face. Il paraît que ce sont des ennemis. Je ne sais même pas reconnaître les têtes amies. Comment reconnaître les autres? Toutes les têtes garçons sont noires, avec les crêpes, le short et la chemise belge. Les têtes filles ne font pas plus d'efforts, avec leurs cheveux unanimes attachés en rang de tresse du front à la nuque. Maman a parfois les mêmes, et j'aime cette coiffure, mais elle ne veut jamais me les faire. Elle me dit que c'est pas possible à cause de la rouille qui a enlevé les crêpes sur ma tête quand je suis né. Je comprends que la coiffure est réservée aux filles. Dans la cour de la récréation, il y a beaucoup d'oiseaux dans les arbres et dans le ciel, pas seulement les pigeons uniques de Oudkerque, qui vont plus souvent à l'église que les hommes, mais toutes les espèces, les couleurs, les tailles, les chansons. Les grands volent si haut que je crois qu'on les a dessinés dans le ciel, les petits volent si bas que je crois qu'on peut les attraper. Une escadrille jaune et noire passe à ras le sol, je la poursuis des yeux et des pieds. Je ne vois pas le croc de la jambe sur mon chemin. Quand je me relève de la poussière mordue, un garçon est devant moi. Au jugement de mes yeux, il a une tête d'avance sur Marco le jaloux. Il me rit une dent cassée devant la bouche. Il fait le méchant. Il ne sait pas qu'il a affaire à un champion de la lutte des classes.
Gauze, extrait de votre livre « Camarade Papa ». Alain Mapankou, on l'évoquait, votre livre écrit à hauteur d'enfant, « Les cigognes sont immortelles », un point de vue qui était déjà présent, adopté dans « Petit Piment » paru en 2013, mais cette fois à travers l'errance d'un enfant orphelin dans les rues de Pointe-Noire. Ici, dans Les Cigognes sont immortelles, on vit chichement, mais autour de Michel, le jeune personnage, il y a quand même beaucoup d'amour de maman Pauline et de papa Roger. Vous voulez nous en lire un extrait avant qu'on arrive au point de bascule?
Oui, je veux vous lire un extrait où le petit écoute la radio avec son père et quelque chose va les énerver. On passait de temps en temps les anciens discours du défunt chef de la Révolution. Papa Roger en a eu marre et a changé de station pour écouter la radio américaine et ses journalistes qui s'expriment en français rien que pour nous les Africains. Ce qui avait aussi énervé Papa Roger dans notre radio nationale, c'est qu'un journaliste à la voix du Soulard racontait la vie du camarade président Marie Ngouabi de long en large, comme s'il avait vécu avec lui ou qu'il avait été là le jour de la naissance de nos chefs de la Révolution. Il pleurait quand il expliquait que notre président n'était pas un fils de riche, qu'il était pauvre comme la plupart des Congolais, qu'il était né dans un tout petit village perdu du nord là-bas qui s'appelle Ombélé. C'était vraiment un village de brousse qu'on ne rencontre que dans les livres des Blancs qui parlent des Noirs avec quelques cases et des gens qui se connaissent tous parce qu'ils ont les mêmes parents et font des enfants entre eux sans avoir peur de faire des bébés mal formés avec des gueules de sangliers ou des pieds de cochon. En plus, dans ce village d'Ombélé, il y a justement des cochons qui tournent en rond parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de manger de la merde et d'attendre le jour où ils vont être eux-mêmes mangé ou vendu. Toujours dans ce village d'Ombélé, il y a également des coqs qui se trompent chaque fois d'heure et qui font cocorico à midi en croyant qu'ils peuvent faire arriver la nuit alors que c'est avant l'aube qu'ils devraient faire cocorico. Comme ça, les paysans ne seront pas en retard pour débroussailler les champs, planter les patates douces, les taros et les ignames. Alors que personne ne peut demander à Dieu de naître à Ombélé, ce journaliste à la voix de Soulard disait que c'était le plus beau village du monde et que le 31 décembre 1938, le bébé qu'on a nommé là-bas Marie Ngouabi, fils unique de Maman Boalé à Bemba et de Dominique Osere Mpoma, ne pouvait naître que là. Autrement, il ne serait jamais devenu notre camarade président de la République.
C'est un livre gourmand, finalement. On sent que vous retrouvez aussi, vous réveillez vos cinq sens et vous mettez énormément de couleurs dans tout ce que vous décrivez. Il va y avoir un événement fondateur, un point de bascule. Et c'est l'assassinat de Marianne Ngouabi dont vous veniez de parler. Et là, c'est une tragédie à échelle nationale, mais aussi à l'échelle de cette famille.
Ngouabi, Marianne, 32 ans, chef d'État, un jeune homme. Depuis un an et demi, depuis la chute de Massamba Déba, cet homme qui fait son footing tous les matins à 6h30 dans les rues de Brazzaville, cet homme dirige le Congo socialiste. Un officier formé très traditionnellement en France dès l'école des sous-officiers de Strasbourg. Capitaine de parachutiste puis commandant, Marianne Ngouabi était l'officier le plus populaire du Congo. Il est devenu président de la République. Entre-temps, il a aussi appris le marxisme-léninisme.
Pourquoi avoir voulu revenir sur cette figure historique?
Parce que Marie Ngouabi était un personnage central de l'histoire du Congo, mais aussi de l'histoire de France, puisque à l'intérieur du livre, je montre que il a travaillé pour l'armée française, il était parti au Cameroun pour traquer un révolutionnaire que nous aimons bien, qui s'appelle Oum Niobe, puis il avait démissionné, et puis il a fait l'école Saint-Cyr. Il fait partie des rares Congolais qui étaient allés à Saint-Cyr, il a fait l'école là-bas, et puis dans le nord de Paris, dans le nord de la France, il a rencontré une serveuse blanche, française. Ils sont tombés apparemment amoureux et cette femme devait être notre maman nationale, c'est-à-dire la première dame du Congo. Comme les Congolais sont très ouverts, ils ne trouvaient pas offusquant qu'on puisse avoir une maman nationale qui soit blanche. Mais malheureusement, au moment où cette femme devait rentrer au pays pour devenir la première dame, le président qui était déjà arrivé sur place avait déjà pris une femme noire sur place également. Donc, la polygamie n'existant pas forcément en Europe, eh ben, ça, elle n'a jamais été notre première dame, mais elle nous a laissé deux enfants qui sont devenus un peu les exemples que nous voulions à cette époque être des militaires comme eux. Un des enfants est mort après la conférence nationale au Congo dans les années 90 et la voix de cet enfant-là se trouve dans Les Cigognes sont immortelles. Donc pour moi, c'est un des personnages politiques très importants de notre histoire et sa mort a peut-être déclenché beaucoup de choses dans mon imaginaire.
Quoi, par exemple ?
Parce que on n'a pas l'impression comme ça que cet assassinat qui se fait à Brazzaville est un assassinat qui est simplement politique, mais il va avoir des implications dans la vie des individus, notamment des implications dans la famille de mon narrateur, Michel, de sa maman, Pauline, et de son papa Roger, puisque dans la traque de ceux qui sont censés avoir tué le président de la République, un des parents de mon personnage, maman Pauline, qui s'appelle Kimbo Lankaya, qui est un capitaine, est accusé d'avoir comploté ou d'avoir concouru à l'assassinat du président Marien Gwabi. Donc, il a été exécuté. C'est pour ça que ce roman est un mélange de réalité et de fiction. Et je pense même que, pour une fois, la réalité dépasse la fiction. Je ne sais même pas si c'est une fiction, mais en tout cas, moi, je prends le rôle d'un metteur en scène dans ce roman. Ce que j'ai mis, c'est cette saveur, c'est ce discours d'enfant qui se trouve là, mais la plupart des faits historiques qui sont là sont réels. Par exemple, le dimanche 20 mars 1977, ça fait déjà 3 jours que le président est mort. On nous dit rien sur les conditions de son assassinat, mais on nous parle de Jacques Chirac, qui vient d'être élu maire de Paris. Concrètement, je n'ai pas utilisé beaucoup de matériel de la fiction. Les éléments de la réalité étaient tellement romanesques qu'il me fallait seulement me retenir. Et bien évidemment, il faut aussi la démarche de l'écriture qui se trouve à l'intérieur. Mais les éléments dans la fiction tirent beaucoup de la réalité.
1977, 41 ans plus tard, qu'est-ce que ça nous dit aussi du rôle de l'écrivain? Vous dites metteur en scène, mais on sent que c'est aussi aujourd'hui aux écrivains, par leur parler, par leur langue, par cette mémoire qu'ils se réapproprient, de raconter l'histoire de leur pays. C'est un événement qui aujourd'hui encore compte.
Oui, ça compte au Congo, c'est vrai, mais en même temps, ça compte aussi beaucoup pour la France, puisque les années 70 sont des années aussi de turbulences. On a encore beaucoup de relations avec la France. Dans les années 70, on sent aussi que l'immigration n'est pas encore un problème, puisqu'il y avait toujours les regroupements familiaux, il y avait toujours la reconnaissance de cette dette de la France vis-à-vis de tous ceux qui l'avaient été venus à la rescousse pendant la guerre. Et ces années 70 sont aussi des années où les dictatures se sont bien installées. Mais en même temps, l'Afrique est en deuil. Il y a eu des exécutions. Patrice Lumumba a été exécuté du côté des Oum Niobe du Cameroun aussi. Samora Moïses Machel. Je parle même pas de Lumumba bien avant. Donc il y a des grosses dictatures qui se sont installées. Mobutu Sese Seko, Denis Sassou Nguesso au Congo.
D'ailleurs, c'est après qu'il prend le pouvoir.
C'est après, en 79. 2 ans plus tard, il prend le pouvoir et il est toujours au pouvoir actuellement. Donc, le roman reste d'actualité. C'est un regard de l'Afrique, dans l'Afrique, mais c'est aussi un regard sur la responsabilité de la France ou bien l'attitude de la France par rapport au continent africain.
Votre premier roman, Gauze, parlait de l'époque actuelle, parlait d'aujourd'hui, mais vous le disiez déjà, même avant de Boupeyer, vous étiez travaillé par l'envie d'écrire un grand roman historique, une fresque. Qu'est-ce que l'écrivain, avec ses histoires, doit ou peut faire à la grande histoire ?
L'histoire, la grande histoire, elle est vachement fournie. C'est souvent, c'est très scientifique. Il y a plein de gens, il y a plein de chercheurs qui ont bossé pour dire une histoire qui est vraie. Mais seulement, il y a plein de choses dans cette histoire qui ne sont pas dites. C'est comme quand on réalise un film, on choisit son matériau pour construire son histoire. Et c'est ce qui s'est passé. Et le matériel, il est là, en fait. En salle de montage, il y a les rushs. Et moi, ce qui est important dans ma démarche, c'est que je ramasse les rushs. C'est dans les rushs que je fabrique mon histoire. Et quand j'étais adolescent, quand j'ai eu mon grand choc, ce que j'appelle ma grande illumination à la Saint-Paul, là, après avoir lu Céline et Kourouma,
Je me suis dit, bon, quand je serai grand, je vais écrire comme ça. Et qu'est-ce que je vais écrire? Ouais, je vais faire une grande fresque coloniale avec plein d'histoires qui vont se couper, se recouper, un peu à la Maryse Condé, dans sa triptyque de ses goûts. Et j'avais une thèse en fait. J'avais ces 20 ans de collection de notes, j'avais une véritable thèse. Donc ça m'a pris un peu de temps pour ne pas être trop prétentieux, pour donner des leçons aux gens, pour pouvoir être suffisamment mûr pour écrire une histoire qui touche par ce qu'elle dit, par ce qu'elle ne dit pas, par la langue qu'elle porte aussi.
Trouver le ton juste.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Dans l'actualité culturelle, aujourd'hui, il y a aussi Alpha Blondy. Alpha Blondy pour son nouvel album Human Race, pour lequel il a rassemblé notamment Youssou N'Dour et Angélique Kidjo. Le reggae.
Et ça fait partie de ma mythologie musicale de reggae. Alpha Blondy, moi il a l'âge de mon père en réalité. Pour moi par exemple, il fait partie des gens qui ont apporté la démocratie. Pour une raison simple, il nous a appris à manifester notre impolitesse en public.
Ah ouais.
Avec Brigadier Sabari, le grand jeu des concerts d'Alpha Blondy dans les années 80, c'était de défier l'autorité policière en se faisant chicoter, tabasser. Et ces concerts-là étaient faits régulièrement chaque année. Alors que dans la vie publique était complètement bouclée par Houphouët Boigny, lui, dans ces concerts-là, était l'exutoire justement pour défier le pouvoir que représentait la police. Donc en 90, on était mûrs pour balancer des cailloux à la face des CRS. Et donc c'est ça, pour moi, l'apport d'Alpha Blondy dans le concert démocratique. Mais après, les albums comme Jérusalem, Cocody Rock, voilà, moi je suis un gars de Cocody, quoi. quand tu entends Cocody Rock en République tchèque, t'es content, quoi.
Gauze, vous louez souvent le culot d'un Romain Gary qui s'autorisait tout, selon vous.
Dans un livre, j'ai écrit en parlant d'un garçon, d'un gamin de 14 ans qui fait une espèce de monologue intérieur, qui veut s'attendrir lui-même sur une situation qu'il crée de toutes pièces, qui n'existe pas. Il dit, en parlant de sa petite amie, elle gisait à mes pieds, mortellement. Alors là, il veut vraiment exagérer encore dans l'émotion. Elle dit, elle gisait à mes pieds, mortellement tuée. C'est un gamin de 13 ans qui ne sait pas très bien, qui veut s'émouvoir. Alors on a dit, Romain Gary ne sait pas qu'on ne peut pas dire mortellement tuée. Dans la même situation, le même personnage, un peu plus bas, dit, la petite était devenue aveugle, et je lui lisais à haute voix le livre pour aveugle en écriture de braille. Alors, les critiques me disent, mais monsieur Romain Gary, mais voyons, mais on ne peut pas lire, on ne lit pas à haute voix un livre pour aveugle en écriture de braille, les aveugles le lisent eux-mêmes. Alors voilà, ça c'est important, parce que ce que le langage du personnage est attribué à l'auteur. Le langage est projeté par l'auteur sur le personnage pour le décrire, pour le situer, pour le préciser. Alors on attribue à l'auteur, on oublie le personnage.
Une dernière question pour tous les deux. Il y a des livres qui changent une vie. Vous évoquiez, vous, Gauze, l'importance de Les Soleils de l'Indépendance de Kuruma pour vous. Des livres qui donnent envie d'écrire ou qui vous rendent intelligent. Et puis il y en a d'autres qui sont réussis mais qui n'ont pas cette puissance, qui n'ont pas cette magie. Alain Mabankou, comment réussir quand on est écrivain un tel tour de passe-passe? Est-ce que c'est une question que vous vous posez dès l'écriture?
Non, mais je pense qu'il ne... Quand on écrit, on se pose, on s'assoit pas pour dire il faut que j'écrive un chef-d'œuvre, il faut que j'écrive quelque chose. L'écriture, c'est lorsque vous avez faim, il faut que vous mangez. Mais non, ça dépend de ce que vous allez manger. Vous mangez la nourriture qui est devant vous, les aliments que vous avez achetés ou bien qui se trouvent dans votre jardin. Tout le reste, c'est une histoire de critique, de postérité. L'écrivain ne doit pas se voir en train d'écrire. L'écrivain ne doit pas préjuger déjà de ce que sera ce qu'il va faire. Donc, dans ce sens, pour apprendre l'humilité, il faut lire des livres qu'on considère comme aboutis. Pour moi, c'est « Cent ans de solitude », pour moi, c'est « Le vieil homme et la mère », pour moi, c'est « La peste ». Voilà.
Là, on ne peut plus rien dire.
Ça, c'est les grands frères. Voilà. « Le vieil homme et la mère », mais non. Voilà. Gary, c'est Pelé.
Mais j'ai pas fini, hein, la liste. La liste était longue.
Bon, ce qui a marqué mon parcours littéraire, en tout cas, les choses, les trucs qui m'ont touché, c'est tous ceux qui étaient possédés par une histoire et une langue en même temps.
Mais en même temps, Gauze, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sont possédés par la langue, d'autres sont possédés par l'univers. Et les chefs-d'œuvre peut-être arrivent lorsque le travail de la langue croise le foisonnement de l'univers.
Alain Mabankou, ça fait 3 fois que maman Pauline nous demande d'éteindre la radio pour se mettre à table. Heureusement, vous n'écoutez jamais, ou votre personnage, ce que dit maman Pauline. C'est la bonne nouvelle, la radio va rester allumée. On va vous retrouver l'un et l'autre dans une 20aine de minutes pour débattre ensemble de ces sujets qui fâchent. On vous les donne tout à l'heure.